gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité aujourd'hui est au piano ce que l'encre est au papier, indissociables l'un de l'autre. L'affection qu'elle porte à l'instrument l'a amenée, au gré du temps, à partager son bonheur avec les autres, d'une part en donnant de nombreux récitals et d'autre part en transmettant son amour pour la musique pianistique par l'enseignement. Avec nous, avec grand bonheur, Ghislaine Giroux, bonjour à vous.
Bonjour tout le monde, bonjour Armand, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Et c'est vrai que vous partagez cet amour incommensurable pour le piano. Chaque fois qu'on vous voit, c'est comme la fête.
Oui, c'est vrai, c'est une fête, parce que moi, je vis dans la fête continuellement. Et des fois, il y en a qui me demandent, est-ce que tu vas prendre ta retraite? Bien, ça serait bien trop plat de prendre une retraite, il n'y aurait plus de fête, imaginez-vous.
Oui, c'est vrai. Mais je vous ai vu à quelques reprises donner des récitals et vous prenez le temps d'envelopper les pièces musicales, de raconter des histoires. Quand je parle de fête, on est vraiment dans un univers ludique. C'est joyeux, c'est agréable. C'est comme si on allait s'amuser tout en découvrant des musiques très sérieuses.
Exactement, ça démystifie, je pense, le fait d'expliquer, ça démystifie beaucoup la musique qu'on appelle classique. Parce que les gens, ils ont un petit peu peur du mot classique, hein? Vous êtes d'accord? Alors, quand on leur parle, puis qu'on leur explique la pièce, le compositeur, le contexte, dans pourquoi ça a été écrit, je pense que ça aide énormément. Puis les gens, ils ont une écoute à ce moment-là vraiment extraordinaire.
Et l'éventail est large quand on parle de musique pianistique.
Oui.
Je pense que même dans une vie, on ne pourrait pas jouer tout ce qui a été écrit pour le piano.
Non. Je pense qu'on ne pourrait pas. C'est impossible, ça. Puis même si on travaillait, là, tu sais, pour se dire, bon, ben, ça serait mon programme de retraite, non.
Vous en auriez pour plusieurs années.
Pour plusieurs années, effectivement.
Parlez-nous de Ghislaine Giroux. Qui est-elle? Comment commencer cet apprentissage du piano en bas âge avec des maîtres dès le départ?
Oui, moi, ça a commencé, vous savez, chez moi. Dans ce temps-là, je dois dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Tu sais, la télévision est arrivée par après. Il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait rien de tout ça. Et chez moi, on faisait de la musique. C'est ma grand-mère qui faisait du piano. Et les gens se réunissaient tous les soirs, puis ils faisaient de la musique.
Autour du piano.
Autour du piano, c'est ça. Puis moi, j'ai été bercée à ça. Et je me souviens même ma grand-mère qui me jouait toujours, avant que j'aille dormir, le rêve d'un ange. Puis elle m'expliquait tout. L'ange qui s'en va faire dodo, puis qui va veiller sur toi. Alors, c'est resté dans cet esprit-là. Et par après, ça, j'étais une petite fille. Par après, ben c'est au couvent. Moi, j'ai fait mes études chez les dames de la congrégation. Il y a une religieuse qui est venue, puis elle dit, est-ce que vous aimeriez, qui aimerait suivre des cours de piano? Et moi, jamais personne qui m'avait dit, ah, tu sais, tu vas t'inscrire à un cours de piano. Et j'ai levé tout de suite ma main, puis j'ai dit, moi, ça m'intéresse, je veux suivre des cours de piano. Et la religieuse a appelé chez nous, puis elle a dit, votre fille, elle veut s'inscrire. Et on dit, ah, ben, pas de problème, pas de problème.
Vous parlez de religieuse, vous nous proposez aussi beaucoup de belles pièces musicales tout au cours de l'émission qui va suivre. Et la toute première, elle a, bien sûr, une connotation religieuse, c'est la musique de Bach. Vous avez choisi une adaptation probablement pour le piano d'une cantate qui s'appelle « Sanctifie-nous pour la bonté » de Bach.
Oui.
Il y a une raison particulière?
Ben moi, je trouve que Bach, là, Jean-Sébastien, de son vrai nom, parce qu'il y a eu plusieurs fils, mais on parle de Jean-Sébastien Bach. Moi, je trouve que c'est la réconciliation avec le monde, Bach. Et je me dis, si tous les grands de ce monde, les grands dirigeants, écoutaient du Bach à chaque matin, ça irait tellement mieux. Tellement mieux.
Thank you. Et on vient d'entendre Angela Hewitt, qui est une pianiste canadienne, d'ailleurs. Elle est née à Ottawa.
Exactement.
Et elle a été, elle aussi, enveloppée par la musique parce que son père était organiste à la cathédrale Christ Church d'Ottawa.
Oui.
Sa mère était aussi enseignante en musique. Elle a donc appris le piano très jeune, à 3 ans. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Non, non, j'étais moins prodige que ça. Non, moi, j'ai commencé à l'âge honorable de 7 ans.
7 ans. C'est quand même très jeune.
Oui, bien, 7 ans, mais c'est un bel âge, je pense, que pour commencer la musique. Les élèves que j'ai actuellement, ceux qui ont 7 ans, là, c'est bien. T'sais, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent compter. Plus jeune, c'est plus difficile, j'avoue.
Est-ce que dès le départ, à 7 ans, parce qu'il y a des enfants qui ne découvrent pas cette chimie en mettant les doigts sur un piano, est-ce que vous, tout de suite, vous avez senti que vous faisiez presque corps avec cet instrument?
Mais oui, parce que j'avais le rêve d'un ange qui me suivait toujours, moi, hein, c'est ça? Alors, les pièces que je jouais, là, si minuscules étaient-elles, j'avais toujours, toujours une histoire, moi, dans ma tête, à me raconter avec ces pièces-là. Toujours.
Quel genre d'histoire?
Non, ben, ça pouvait être n'importe quoi. Exemple, bon, l'avalanche. Je voulais jouer, c'est une étude de Heller, ça s'appelle l'avalanche. Moi, là, je voyais ça dans les montagnes, la grosse avalanche, puis ça déboule, mais tu sais, dans le fond, la pièce est pas si... On n'est pas dans le liste, là, OK? Mais moi, dans ma tête, là, je fais mon histoire, puis j'invente...
Vous voyez les images.
Oui, 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 je vois des images, puis je sais que le compositeur, il était peut-être très, très loin de penser à ça, mais moi, c'est mes images.
Mais c'est là où on s'accapare, finalement, l'œuvre du compositeur et que l'interprétation prend toute sa valeur.
Exactement, parce que c'est comme vous disiez à un moment donné, tu sais, quand on parle du sapin de Noël, hein, le fameux sapin de Noël, quand je le vois, c'est ça, c'est un sapin de Noël. Mais quand je dis, ah oui, chez nous, j'ai fait un sapin de Noël, tout le monde dans sa tête imagine son propre sapin.
Tout à fait.
Hein, c'est ça qui est extraordinaire dans la musique.
Et c'est la même chose avec la musique.
Ben oui, la musique, c'est ça, c'est toujours un imaginaire, toujours.
Parlez-nous de la prochaine pièce, pièce de Richard Strauss.
Ah oui, Stenson, moi j'adore cette pièce-là parce que je trouve que ça porte, cette pièce-là porte vraiment à la rêverie. Et jouée par Nelson Friday, comme on dit, ça dépend si on veut parler portugais ou notre accent, c'est tellement extraordinaire et ça nous amène, c'est ça qui nous amène dans un autre monde aussi, toujours.
Et ce pianiste était et toujours un grand ami de Martha Argerich.
Oui, il a été marié d'ailleurs, je pense, avec Martha Argerich.
Elle a été aussi peut-être... avec Charles Dutoit.
Alors ouais, ben, on ne comptera pas les mariages de Martha Argerich, là, mais c'est ça. C'est,
mais ils font des duos parfois
des
pièces
font
à quatre
pianos,
mains.
Voilà. Oui, quatre mains, oui, c'est
alors,
ça.
Alors, on écoute cette pièce. Là, on est dans un univers différent.
Oh,
quand même.
Très différent, là, très différent. On s'en va dans le surréel, là. Oui. Thank you.
Stan Kenn, opus 17, numéro 2, musique de Richard Strauss. Il y a des paroles qui ont été mises là-dessus.
Oui, c'est ça.
Et évidemment, vous disiez que c'était un univers surréel, et c'est aussi la capacité de la musique de nous transporter parfois dans un monde irréel.
Exactement, exactement. Puis c'est ça qui est de merveilleux, puis c'est pour ça que je dis, si tous les grands de ce monde pouvaient écouter là, plus de musique que ça, là, on serait peut-être mieux dans notre tête, dans notre cœur, dans notre âme.
Est-ce que vous croyez vraiment que... On dit souvent, puis c'est, bon, c'est un presque un lieu commun de dire que la musique adoucit les mœurs.
Oui, oui.
Mais il y a quand même une capacité pour la musique de rendre l'âme meilleure.
Exact. Exactement,
c'est
ça.
C'est un peu ce
que vous dites. Oui, c'est ça. C'est que quand on fait de la musique, peu importe, là, n'importe quelle sorte de musique, là, j'entends, là, parce que là, il y en a qui pensent que je parle juste de musique classique. Là. Non, non, moi, je parle de la musique en général. On sent là, que en dedans de toi, tu as une énergie qui vient te chercher et qui est fantastique. Et que tu espères que cette énergie-là, tu la donnes aux autres aussi. Là, hein?
Parfois, ça nous rend aussi nostalgiques.
Oui, oui. Oui.
Ça peut même faire surgir une émotion qui amène même les larmes.
Oh, absolument, absolument. Moi, récemment, là, j'ai écouté, je suis allée à un récital de Charles-Richard Hamelin. Incroyable. Il a commencé à jouer là, les trois premières notes. Tu sais pas pourquoi, t'as les larmes aux yeux. T'as les larmes aux yeux. C'est extraordinaire, là, la communication qu'il peut y avoir.
Là, vous allez probablement provoquer nos glandes lacrymales. Je vais vous inviter à prendre place au piano pour nous interpréter, ici même en studio, le Nocturne en do dièse mineur. C'est l'œuvre posthume de Chopin. Oui. Alors, on va écouter Ghislaine Giroux. Prenez quand même quelques instants, si vous nous écoutez, asseyez-vous confortablement pendant que Ghislaine jouera cette œuvre qui est une, en fait, qui est un petit cadeau pour moi parce que c'est une œuvre que j'adore.
Exactement.
Profondément. Thank you. on laisse revenir Ghislaine à sa place. Merci beaucoup, Ghislaine. Quelle belle interprétation. Ça, c'est le genre de pièce qui, effectivement, là, chavire l'âme.
Oui, c'est ça. Puis c'est difficile à jouer parce que, comme je dirais, c'est qu'il faut se laisser envelopper par la musique. Il faut oublier qu'il y a des notes. Les notes, ça ne dit plus rien, là. C'est une histoire, c'est un texte qu'on a au bout des doigts puis qu'on raconte. Puis dans notre tête, là, on s'imagine qu'est-ce que c'est exactement, tu sais.
À quel moment, et là, je pose la question à l'experte, à quel moment atteint-on ce niveau où on peut oublier les notes et se laisser porter par la vague?
Ah oui, ça, c'est un moment très difficile qu'on appelle l'action de grâce, l'état de grâce, pardon, l'état de grâce. Et l'état de grâce ne vient pas toujours. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sa pièce énormément pour essayer de passer par-dessus toutes les notes. Et il y a toujours des contraintes, hein, tu sais, le piano, bon, nous autres, on est pris avec l'instrument, on n'a jamais le même instrument. Ensuite, tu sais, ça dépend de toi aussi, ta fatigue, ça dépend de plein de choses. Mais c'est le moment, là, qu'on appelle l'état de grâce. Il arrive rarement, mais il faut passer à travers.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a reçu ici des comédiens et comédiennes qui nous parlent souvent de cet état de grâce au plan du jeu, où on en arrive à oublier ce que l'on est soi-même pour devenir le personnage que l'on joue. Et on en vient à penser comme le personnage. Même si le texte est bien sûr placé, on a des pensées qui serait tel que le personnage pourrait
exactement.
Avoir.
Oui.
C'est
oui,
un
oui.
peu la même chose.
Ben, c'est la même chose, exactement. Puis moi, je dis souvent à des élèves, parce qu'ils sont gênés de, tu sais, soit de donner leur émotion, puis d'aller... Mais je dis, c'est pas toi, là. La musique, elle passe par toi. T'es comme un médium, toi. Et c'est pas toi qui est triste, c'est pas toi qui est nostalgique. C'est la musique qui va passer par toi. T'es un filtre.
Alors, parlant de filtres, on peut parler d'un éventail très large, vous l'avez dit, toutes les musiques que vous nous proposez cette fois, Pink Martini. Là, on n'est pas en musique classique.
Non, mais c'est ça. Moi, bon, tout le monde me colle un peu l'étiquette d'un pianiste classique, là. Mais non, j'aime beaucoup Pink Martini, puis tu sais, ce qu'ils font, ça m'enchante, là. Puis surtout la pièce qu'on va entendre.
Et qui s'intitule?
Over the Valley. Et puis moi, je me pense des fois une bonne chanteuse, je suis dans mon auto, là, puis je chante avec elle, mais c'est mieux de ne pas le faire. Là. On va lui laisser l'état de grâce à elle.
Over the valley I saw a silver cloud with a pink lining. I said it right out loud, there's no denying. You are my one and only love, and we'll see over the valley the moon rise above. Over the valley, this house among the trees where we've been hiding, making our memories, and I'm deciding you are my one and only love, and we'll be over the valley as the moon shines above. The autumn breezes carry all the bluebirds down to where the sun still shines. If we could far from home, over the valley, just above the fray, the sun is setting, and And when we're old and gray, I'll still be betting you are my one and only love. And over the valley, the moon shines above. Above the fray, the sun is setting, and when we're old and gray, I'll still be betting you are my one and only love, and we'll live over the valley. You'll always be with me as the moon shines.